à tout prix la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut.
Bonjour, je m'appelle Nguyen Thuy Phuong, chercheuse associée à l'équipe de recherche en histoire sociale de l'éducation de l'Université de Genève. J'ai reçu le prix Louis Cros décerné en 2018 par l'Académie des sciences morales et politiques pour mon livre issu de ma thèse en histoire intitulée « L'école française au Vietnam de 1945 à 1975, de la mission civilisatrice à la diplomatie culturelle » publié aux éditions Ancrage. Je suis vietnamienne, née début des années 1980. Pour les Vietnamiens de ma génération, née après la réunification de 1975, le lien avec la France est aujourd'hui très ténu. Le Vietnam est membre de la francophonie, mais on n'y compte plus que moins d'1% de francophones. Depuis la libéralisation économique des années 1990, ce sont l'anglais et la culture mondialisée qui prédominent, et les Vietnamiens qui ont choisi d'apprendre le français, de s'intéresser à la culture française, sont devenus bien rares. Il y a pourtant un passé français, un apport culturel français au Vietnam qui s'explique par une colonisation assez longue, de près d'un siècle, durant laquelle les colonisateurs ont mis en place un véritable système éducatif. La nouveauté de mon travail a été de montrer comment ce système éducatif a survécu à la fin de la colonisation, comment il a prospéré durant les 3 décennies suivantes. L'éducation des indigènes, qui était le fer de lance de missions civilisatrices coloniales, a été transformée après la Seconde Guerre mondiale en un instrument de diplomatie culturelle. Il faut d'abord rappeler que le système éducatif colonial en Indochine a été le plus élaboré et le plus complet de toutes les colonies françaises. En 1945, il scolarisait près d'un million d'élèves, depuis les écoles de village jusqu'à l'université de Hanoï. Un jeune Vietnamien pouvait, en principe, suivre une éducation complète allant du primaire au supérieur, ce qui était une situation unique dans les colonies. L'éducation coloniale en Indochine avait les mêmes faiblesses que dans les autres colonies, à savoir un faible taux de scolarisation, un illettrisme important, et elle était surtout limitée par volonté politique. Son but était d'abord de fournir la main-d'œuvre plutôt que des cadres ou des professions libérales, car on craignait de créer ce qu'on appelait des déclassés, des intellectuels menaçants pour l'ordre colonial. Sous la colonisation, 2 systèmes éducatifs cohabitaient en Indochine. Il y avait d'une part un système dit franco-indigène réservé aux Indochinois, dont la majorité arrêtait ses études à la fin du primaire. Il y avait, d'autre part, un système français calqué sur la métropole et réservé en principe aux Européens. En principe seulement, car ces écoles françaises, et notamment les lycées prestigieux comme Albert Sarrault à Hanoï et Chasseloup-Lauba à Saigon, accueillaient une proportion importante d'enfants des élites indochinoises, élites politiques, marchandes et intellectuelles. En 1935, par exemple, plus d'un tiers des élèves du lycée Albert Sarrault sont asiatiques et ils gagnent les prix des concours généraux. Ce sont ces établissements français qui, dès les années 1920, forment les élites vietnamiennes. Ce système éducatif s'arrête en mars 1945 quand le coup de force japonais élimine le gouvernement français de l'Indochine. Quand les Français reprennent pied au Vietnam quelques mois plus tard, ils trouvent le pays en plein chaos. Avec des Japonais en déroute, des troupes alliées qui tentent de remettre de l'ordre et différentes factions vietnamiennes qui se disputent le pouvoir, dont le Viet Minh de Ho Chi Minh, qui déclare l'indépendance en septembre 1945. Je dois ici dire 2 mots d'un personnage central de ces histoires, l'inspecteur général de l'enseignement, Albert Charton. Charton est un fonctionnaire colonial aguerri. qui avait été directeur de l'éducation en Indochine pendant la Seconde Guerre mondiale et qui était depuis toujours un fervent partisan d'un enseignement colonial adapté aux conditions locales. En 1946, il est directeur de l'enseignement au ministère de la France d'Outre-mer et comme beaucoup de Français, il comprend mal la situation en Indochine. Il imagine même rétablir le système éducatif colonial avec une France éducatrice de l'Indochine, entre guillemets. Mais en pratique, les Français sont pris par la guerre d'Indochine, qui débute en décembre 1946, et ne peuvent plus gérer le pays comme avant. Ils doivent transférer aux nouvelles autorités vietnamiennes les anciennes écoles franco-indigènes qui intègrent donc l'éducation nationale vietnamienne, tandis que les écoles françaises restent sous la tutelle de la France. Quand Chak Tong revient au Vietnam en 1948 comme chef de service de l'éducation, il découvre une situation inédite. Les écoles françaises ont souffert de la guerre et surtout une partie de la population française est retournée en métropole. Mais le plus extraordinaire est que les lycées français, ces grands lycées coloniaux, sont devenus des établissements fréquentés majoritairement par des Vietnamiens. Et ce sont des Vietnamiens qui affluent en masse. Quant à la relation entre Vietnamiens et Français, elle a profondément changé. Car il ne s'agit plus d'une relation entre colonisateurs et colonisés. Il n'est plus question de civiliser, entre guillemets, les Vietnamiens et d'en faire des subalternes docines. Il faut maintenant rallier ces peuples libres à la cause anticommuniste, à la cause de l'Occident et à la cause française aussi. L'inspecteur Chak Tong prend conscience de la nécessité de ce changement profond et il s'efforce de transformer ce qui reste de la mission civiliste française en un outil de diplomatie culturelle, ce qu'on appellera plus tard le « soft power ». Maintenir les écoles françaises du Vietnam, c'est conserver dans l'orbite française des élites vietnamiennes tentées par l'Amérique ou l'URSS, les écoles françaises, les programmes culturels et la coopération technique naissante sont les principaux instruments de cette nouvelle diplomatie qui s'incarne dans la nouvelle mission d'enseignement français et de coopération culturelle créée par Chak Tong en 1952. Cette mission passe en 1955 sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères, entérinant ainsi le passage du colonial au diplomatique. L'afflux des élèves vietnamiens dans les lycées français est donc accueilli avec enthousiasme par Chak Tong et les officiels français, qui y voient un succès prometteur pour le rang de la France en Asie. Mais cet afflux cause aussi des problèmes. D'abord, ces écoles ouvrent leurs portes à une population très diverse qui n'est plus limitée aux Français et aux élites francophiles. Et beaucoup de ces jeunes ne sont pas francophones. Ensuite, cet afflux dépasse les capacités des écoles. Les lycées sont en mauvais état, trop vieux, trop petits et manquent de personnel car beaucoup d'enseignants sont rentrés en métropole. Il faut donc accroître les budgets, moderniser et réparer les anciens locaux, construire de nouveaux établissements, repenser et adapter les programmes et aussi recruter de nouveaux enseignants. Cette politique porte ses fruits. En 1953, il compte plus de 25 établissements français dépendant de la tutelle publique, dont 5 grands lycées. Il faut ajouter de nombreuses écoles privées, comme le fameux couvent des oiseaux, et au total, ce sont près de 40 000 élèves qui suivent un enseignement français. Il faut noter ici deux caractéristiques remarquables de ces écoles. D'une part, elles sont largement, comme on dirait aujourd'hui, multiculturelles, avec une minorité d'élèves européens et une majorité d'élèves asiatiques ou eurasiens, issus des différents peuples de l'Indochine, y compris les minorités ethniques. D'autre part, plusieurs lycées sont mixtes bien avant la métropole et les taux d'élèves filles sont importants, voire même à parité dans le sud. Les écoles françaises du Vietnam ont été sur certains points en avance sur leur temps. Après la défaite française de Dien Bien Phu, la situation change de façon radicale. Le pays est divisé en deux, avec un gouvernement communiste au nord et un gouvernement nationaliste anticommuniste au sud. Les Français sont privés de pouvoir politique. Ils gardent une influence économique, mais ils comptent surtout sur leur présence culturelle pour continuer à peser sur le plan géopolitique régional. Cela est très difficile au nord, où le régime nationalise ou élimine les entreprises et organisations françaises. Mais de façon étonnante, le prestigieux lycée Albert-Sarro de Hanoï n'est pas supprimé et ses enseignants français font désormais partie des rares Français toujours présents au Nord. Car Français et Nord-Vietnamiens trouvent chacun intérêt au maintien de ce lycée. Pour les Français, il leur permet de garder un pied en terre communiste, une sorte de porte ouverte sur le rideau de fer. Pour les Nord-Vietnamiens, il y a d'abord le fait que les familles vietnamiennes sont attachées à un établissement de grande qualité, mais surtout les Nord-Vietnamiens comptent utiliser le lycée comme monnaie d'échange pour obtenir de la France des avantages et des soutiens économiques ou politiques. Le lycée Albert-Sarro devient une exception remarquable, le seul établissement d'enseignement occidental fonctionnant en pays communiste. Mais son existence est difficile, car le pays est en pleine fièvre révolutionnaire. Les enseignants comme les élèves, à Albert-Sarro comme partout au Nord-Vietnam, sont soumis à une pression idéologique grandissante. Pour certains Nord-Vietnamiens, c'est un lycée de Français, c'est un lycée de traîtres. Les Français finissent par jeter l'éponge en 1964, considérant que l'établissement n'a plus de caractère français et n'a plus d'utilité politique, alors même que les troupes américaines commencent à débarquer en masse. Le lycée est alors définitivement absorbé par la République du Nord-Vietnam. La situation au Sud-Vietnam est nettement plus favorable aux écoles françaises. Certes, le président Diem fait preuve d'hostilité anti-française, mais un accord domanial entre la France et le Sud-Vietnam permet aux écoles françaises de fonctionner librement. L'enseignement français devient florissant pour différentes raisons. Il est d'abord l'enseignement préféré des élites, qui en sont elles-mêmes issues durant la période coloniale. Dans le Sud-Vietnam des années 50-60, les cabinets ministériels, l'armée, le monde des affaires, le monde intellectuel font tous la part belle aux anciens élèves des lycées français, francophones et souvent francophiles. L'enseignement français bénéficie aussi de l'afflux des réfugiés du Nord, une bourgeoisie francophile, souvent catholique, qui vient y inscrire ses enfants. Certains politiciens sud-vietnamiens, anti-français en public, mettent leurs enfants dans les écoles françaises, ce qui irrite et amuse à la fois les diplomates français. Mais cet enseignement est surtout pour les familles un pari sur l'avenir, car il est synonyme de qualité, surtout si on le compare à l'enseignement national encore balbutiant. Les familles attendent de l'école française qu'elle ouvre à leurs enfants les portes de l'université, voire des études à l'étranger. Le diplôme permettra aussi d'éviter la conscription ou, si celle-ci est inévitable, le diplôme facilitera l'obtention d'un poste d'officier ou l'accès à un rôle administratif loin des zones de combat. En conséquence, les effectifs ne cessent de croître tout au long des années 50-60 et les écoles doivent refuser les candidats. La décennie 55-65 constitue vraiment l'âge d'or de l'éducation française au Sud-Vietnam. La mission culturelle est bien dotée budgétairement, ce qui permet d'employer entre 300 et 400 enseignants qui mènent une vie assez confortable. Et on peut estimer à environ 100 000 le nombre d'élèves passés par une école française au Vietnam entre 1945 et 1975. On les retrouvera notamment dans la diaspora vietnamienne, entrepreneurs, artistes, intellectuels, diplomates, médecins, chercheurs, comme l'astrophysicien Trịnh Xuân Thuận. Ce succès incontestable suscite bien sûr des oppositions. Oppositions politiques d'abord. Tout au long des années 50-60, des manifestations françaises sont organisées par le pouvoir. À chaque fois que Paris prend une décision jugée trop favorable au Nord-Vietnam, les écoles françaises servent de bouc émissaire. Elles sont une cible facile. On les accuse d'endoctriner les enfants, d'en faire de mauvais Vietnamiens. On les accuse d'être des écoles de riches, coupées de la population. Elles sont régulièrement menacées de fermeture. La présence culturelle française est aussi sous la menace de ce que les diplomates français de l'époque appellent le rouleau compresseur américain. En effet, les États-Unis entament à partir des années 50 un vaste programme de nation building. Ils veulent transformer l'État vietnamien en un État fort qui peut résister au communisme. Ce programme a un volet éducatif ambitieux, doté d'un gros budget, et la langue anglaise y joue un rôle majeur. Les Américains construisent des écoles, réforment l'éducation, envoient des stagiaires aux États-Unis qui reviennent en parlant anglais, favorables aux idées américaines et défavorables au modèle éducatif français, que les Américains jugent élitiste et dépassé. En dépit de ces menaces, l'enseignement français connaît jusqu'à la réunification de 1975 un grand succès au Sud-Vietnam. Mais il se déploie dans un pays troublé. Les juntes militaires se succèdent, la corruption est endémique et la guerre a des effets dévastateurs. Il devient difficile de faire venir des enseignants dans un pays en guerre. Il devient difficile de financer la diplomatie culturelle. Car, vu du Quai d'Orsay, le Vietnam est loin et aller y enseigner n'est plus une priorité. Rappelons-nous de l'expression « la Corrèze avant le Zambèze ». La fin des années 1960 est donc laborieuse. Les familles sud-vietnamiennes continuent à envoyer leurs enfants dans ces établissements, mais les conditions matérielles et l'atmosphère politique se dégradent. En 1967, on assiste à une forte poussée de fièvre anti-française suite à un discours du général de Gaulle et les autorités vietnamiennes reviennent brutalement sur l'accord domanial qui protégeait les écoles françaises, enclenchant ainsi un processus de démantèlement de l'enseignement français. Le primaire français est vite intégré à l'enseignement national. Par contre, la rétrocession des lycées est régulièrement retardée et l'enseignement privé français compense en partie les effets du démantèlement. Le processus s'enlise dans les années 70. Les grands lycées du Sud continuent à fonctionner tant bien que mal. Et finalement, c'est la chute de Saigon et la réunification en 1975 qui mettent un terme à l'aventure des écoles françaises au Vietnam. Raconté ainsi, le parcours du système d'enseignement français au Vietnam se termine donc par un échec. Au nord comme au sud, les dirigeants français en ont finalement retiré peu de bénéfices de cet investissement et les élites vietnamiennes ne se sont pas ralliées aux positions françaises. La francophonie, l'intérêt pour la culture française ont régressé très rapidement au Vietnam, jusqu'à disparaître presque complètement après 1975. Dans le Vietnam des années 80, où je suis née, la langue française n'était plus enseignée, ou presque. Il faudra attendre la libéralisation des années 90, la perestroïka vietnamienne, pour que le français revienne dans l'enseignement vietnamien. Mais cette histoire n'est pas seulement celle des archives, c'est aussi une histoire humaine. Une partie de mon travail a été consacrée à faire émerger une histoire des élèves. Un contrepoint à l'histoire institutionnelle que je viens d'évoquer. J'ai interrogé une centaine d'anciens élèves et anciens professeurs, dont beaucoup font partie de la diaspora vietnamienne, en France et aux États-Unis notamment, mais j'ai aussi interviewé des Vietnamiens restés au Vietnam. Je dois dire que parler avec eux, écouter le parcours de vie lié à la guerre et à l'exil a été pour moi une manière de dialoguer avec le passé de mon propre pays. en tant que chercheuse, mais aussi en tant que Vietnamienne et héritière de cette histoire, rencontrer des personnes a été une aventure enrichissante, dépassant largement le cadre de mon travail de recherche. Pour reprendre l'expression de Nicole Lapierre, la remémoration ouvre la possibilité d'une alliance entre les générations. J'ai tout à l'heure parlé de l'échec, mais les anciens élèves que j'ai interviewés ont un point de vue très différent, très positif sur l'école française. Bien sûr, on peut parler ici de biais du survivant. Ceux qui témoignent sont ceux qui ont survécu aux tourmentes. Ce sont ceux qui ont réussi. Mais leurs témoignages n'en sont pas moins réels et émouvants. Pour ces témoins, leur passage dans les lycées français des années 50-60 s'est fait le plus souvent dans une ambiance pacifique, studieuse et égalitaire. Ils décrivent ces établissements comme des havres de paix, où la guerre s'arrêtait aux portes. Ils décrivent tout un monde oublié, peut-être un peu enjolivé par la nostalgie, mais confirmé par les témoignages des anciens enseignants, pour qui ces élèves vietnamiens, travailleux, sérieux, étaient presque des élèves idéaux. Surtout, les témoins reconnaissent à l'école française un rôle fondamental dans leur développement personnel. Ils la décrivent comme un tremplin de leur existence. Elle leur a donné une base pratique, les connaissances, la culture générale. Elle leur a donné une base intellectuelle, la méthode, le goût de raisonnement. Et elle leur a donné aussi une base morale, l'humanisme, la liberté, le sens critique. Et cet ensemble s'est révélé indispensable tant pour leur carrière que pour la construction de leur personnalité intellectuelle. C'est grâce à cette école qu'ils sont devenus des êtres complets, riches de leur double culture. De leur point de vue, l'école française au Vietnam a été une réussite.